il nous est apparu qu'il était beaucoup plus faisable et peut-être utile de publier dans le cadre de ces fascicules du Hobbes-Guédin des monographies qui reprendraient un thème précis, n'est-ce pas, comme un titre d'article, des monographies sur des sujets intéressants et que l'on pourrait traiter plus en profondeur que dans de simples articles. Et l'un des premiers thèmes qui m'a semblé intéressant de traiter, c'était justement le thème de ces trois jours, c'est-à-dire les longhi, que je traduis provisoirement par disputation. Et vous avez vu, tout le monde a vu que nous avons assorti le titre de disputation d'un adjectif précis, c'est-à-dire disputation bouddhique japonaise médiévale, c'est-à-dire donc un peu à l'encontre du titre du Hobbes-Guédin, qui est le bouddhisme d'après les sources chinoises et japonaises. Pourquoi les disputations japonaises et pas chinoise? Alors nous allons peut-être entrer, nous n'entrerons pas ici dans les détails, cela fera aussi le sujet de nos discussions, pour ne pas dire de nos disputations des deux jours suivants, mais il est évident, il y a une situation d'évidence. Comme beaucoup de choses, la disputation, le longhi remonte certainement à la Chine, mais la forme qu'il a prise, que la disputation a pris au Japon, est très difficile à faire remonter aux sources chinoises, n'est-ce pas ? Nous allons voir aujourd'hui quelques singularités du longhi japonais. Il y a, dans une certaine mesure, bien sûr, des origines chinoises tout à fait identifiables, mais il y a une sorte de rupture, je dirais, entre la formalisation qui s'est opérée au Japon et ce que nous pouvons trouver en Chine. Alors, nous avons décidé de scinder la question en deux et de commencer par l'endroit où nous avons le plus de sources sur la plus longue période et la plus grande diversité d'origine, c'est-à-dire le Japon. Et j'espère que lorsque nous aurons publié cette première monographie, il y aura suffisamment d'intérêt et peut-être aussi de nouveaux matériaux qui auront été trouvés d'ici là pour faire un volume chinois consacré au même thème. Je salue d'ailleurs la présence de Sylvie Hiro ici, qui aura certainement beaucoup à faire pour ce volume chinois qui, je l'espère, paraîtra avant la venue de Maitreya. Et alors, il y a une constatation d'évidence, c'est que nous pouvons dire qu'il y a trois grandes régions, aires culturelles dans le monde où la disputatio, peut-être vaudra-t-il mieux dire que la disputation, que je pourrais paraphraser par débat scolastique, a été illustrée. Il s'agit de l'Europe latine médiévale, donc l'Europe latine médiévale, et je dirais même catholique, catholico-aristotélicienne, puisque, que je sache, mais là j'aimerais beaucoup que des collègues s'intéressent à la question et viennent même me démentir, j'en serais très, très heureux, ce même phénomène n'existe pas dans la tradition orthodoxe. C'est la disputatio, bien qu'on parle toujours de discussion byzantine, elle est pas du tout, elle se présente pas du tout dans les mêmes formes, sauf lorsqu'il y a eu une influence manifestement reconnaissable de la tradition de l'Église latine. Donc nous avons l'Europe latine médiévale, nous avons le Tibet bouddhique, dans le bouddhisme tibétain, quelque chose qui est un phénomène qui perdure jusqu'à maintenant, comme le savent tous les touristes qui sont allés dans les monastères tibétains, et même en dehors du Tibet. Et puis il y a le bouddhisme japonais. Alors, pour ce qui est de l'Inde non bouddhique, là non plus je ne m'avancerai pas, il y a des formes de disputation très 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 formalisées, mais il faudra laisser cette question aussi aux spécialistes, et je pense aussi à mon collègue Vincent Elchinger, qui, avec mon autre collègue Irène Rosier-Catache, et maintenant commence un grand travail de comparaison, travail synthétique sur la scolastique à travers les aires culturelles et les âges, et sur lesquels, bien sûr, nous aurons nous aurons certainement l'occasion de participer à leurs travaux de plusieurs façons. Donc je reviens au Japon. Il est vrai que moi-même et plusieurs autres personnes qui sont présentes dans cette salle, nous sommes beaucoup intéressés aux disputations dans l'école Tendai, et je salue ici la présence de Paul Groner, n'est-ce pas, qui a travaillé avec son grand travail sur Ryogen, qui a vraiment travaillé sur l'origine des disputations du Tendai. Mais contrairement à ce que nous pouvons penser lorsque nous sommes trop enfermés dans tel ou tel courant, tous les grands courants bouddhiques japonais, et même de façon très inattendue, ont cultivé la disputatio, la disputation. Je dirais même la terre pure, comme l'a montré amplement Jérôme Ducor, qui est ici aussi, n'est-ce pas, un endroit où l'on s'attendrait le moins à trouver cela, mais en réalité, ils ont, les grands courants de la terre pure ont cultivé la disputation, et notre ami Didier Davin nous montrera aussi que cela existe dans le Zen. Donc, au Japon, nous avons une immense littérature consacrée au Rongi, sous toutes ses formes, non seulement le Tendai, mais les grandes écoles traditionnelles comme le Hosshoshu, le Kegonshu, l'école ésotérique Shingon. Le professeur Abe nous a fait l'amitié de nous donner ici un recueil de matériaux sur les Rongi, n'est-ce pas, et les controverses bouddhiques en général, et vous voyez le nombre de travaux cités est très impressionnant. Il y en a partout, et c'est un domaine tout à fait pas encore exploré de façon synthétique. C'est donc dans cette perspective que nous avons organisé ces trois journées de travail, de travaux sur les Rongi, en essayant d'en faire à la fois l'histoire, la typologie et la présentation, une présentation qui en soit à la fois synthétique et puis analytique, en les analysant selon les différents courants bouddhiques. Alors, évidemment, comme vous y attendez, et comme déjà nous allons le voir avec la conférence du professeur Abe, il va se poser un problème de définition de longi, n'est-ce pas, disputation, controverse, débat. Nous avons toutes les possibilités, et il est évident que l'origine en est bien sûr. L'origine la plus évidente vient de Chine. Nous pouvons penser, comme l'avait remarqué aussi le professeur Saito Mareshi, n'est-ce pas, nous trouvons déjà dans les fous chinois de la fin des Han des questions-réponses, n'est-ce pas, des mondo qui préfigurent une forme de débat. Les grands textes de, bien sûr, sans parler des analectes de Confucius, se présentent comme des questions-réponses. Il y a aussi la question-réponse, donc le mondo est une forme à peu près universelle, mais qui se trouve de plus en plus définie. Je pense par exemple dans le Tendai au grand texte du 8e siècle, le Kongo Beiron, n'est-ce pas, de Janzhan, de Tannen, qui se présente sous la forme d'un dialogue en question-réponse qui se fait en rêve. Et je trouve très intéressant de voir un écrit comme par exemple le Musoki, sur lequel nous avons travaillé l'an dernier, de Jien, qui relate le rêve, un rêve primordial et d'autres rêves de Jien, qui se développe en une forme de question-réponse de Jien avec lui-même, n'est-ce pas? Donc nous avons ici une sorte de débat intérieur qui est la forme la plus élémentaire de ce débat, le débat avec soi-même pour résoudre les questions. Ce qui est différent de la controverse entre religions qui s'est développée en Chine, n'est-ce pas, entre les trois grandes doctrines religieuses, et les controverses entre sectes et écoles. Pour moi, la finalité, la forme parfaite de ce débat, de cette disputation, c'est vraiment le débat proprement scolastique qu'on pourrait trouver, par exemple, dans le Tendai sous la forme du Kogaku Ryugi, qui est, que je pourrais traduire par l'établissement des dogmes par une ample étude, et où l'on trouve beaucoup de traits communs avec la disputatio bouddhique, latine médiévale, n'est-ce pas, qui est... Le point principal, c'est que ce sont des débats internes, c'est-à-dire, pour dire là, on ne discute bien que lorsqu'on est d'accord, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des débats qui servent à approfondir ou à établir, comme le dit le Dogi, le dogme de l'école à laquelle on adhère. Je fais exprès d'utiliser le mot dogme, n'est-ce pas, non pas dans le sens de l'Église catholique, ce que l'on est obligé de croire, mais pour rendre le sino-japonais gi, n'est-ce pas, qui est derrière les sens, un terme que l'on trouve dans Hobo Gilin, n'est-ce pas, le texte même de notre, le titre même de notre dictionnaire, qui est la forêt des sens du trésor de la loi. Ces sens, ce ne sont pas ceux que l'on est obligé de croire, mais disons, c'est le signe de reconnaissance, le signe de reconnaissance à l'intérieur d'une école. Et évidemment, le débat scolastique à la fois sert à approfondir le sens, à le dogme, à le renforcer, et puis aussi à exercer les facultés rationnelles des débattants. Et l'un des traits les plus caractéristiques du débat scolastique, c'est que c'est une forme d'examen. Il permet de gagner des grades dans la hiérarchie, disons, académico-ecclésiastique, des grades qui sont reconnus, ce sont des examens de passage. Et c'est donc une réflexion, c'est une forme de réflexion sur les doctrines de la secte. Et alors, comme vous le savez, nous avons dans le genre littéraire des questiones disputatae dans la latinité médiévale. Nous avons aussi au Japon, et singulièrement dans l'école Tendai, des rongishu, n'est-ce pas, des rondaishu, des recueils de questions disputées qui peuvent prendre des formes très variées. Et la forme la plus élémentaire, ce n'est peut-être pas la plus ancienne, là, c'est débattu. Bien sûr, nous avons des manuscrits qui remontent en principe au fondateur Ryōgen, mais qui sont bien postérieurs, où nous avons la liste des questions, une liste d'une centaine de questions, 90, 92, 94, avec l'énoncé des questions et les réponses qui sont données en même temps. C'est-à-dire que, entre la question et la réponse est déterminée, mais ce qui est toute liberté est donnée pour arriver à la réponse. Et l'un des traits caractéristiques du débat scolastique médiéval, c'est que la conclusion est qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre les différentes positions. On arrive toujours à une forme de synthèse qui n'est pas hegelienne, mais qui est tout à fait bouddhique, n'est-ce pas, pour montrer que les deux positions ont été... Il y a une position qui... L'une des positions intègre complètement l'autre. Alors, la tradition japonaise du débat scolastique a aussi un trait tout à fait original qui, par force, ne se trouve pas en Chine, encore que l'on pourrait en débattre là aussi. C'est la question linguistique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la préoccupation majeure de cette chaire, c'est la relation wa-kan, n'est-ce pas, japono-chinoise, dans l'histoire intellectuelle du Japon. Et dans les disputations, dans les rongi japonais, nous avons cette forme tout à fait évidente, puisque ça se déroule en japonais relativement classique, donc oralement bien sûr, mais elle est notée, et la très grande majorité des recueils de questions disputées sont en, disons, en, en, en chinois hybride, c'est-à-dire qu'il y a déjà un décalage entre la notation, la mise par écrit de ces textes et l'oralisation. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant, bien sûr, c'est que ces disputations se fondent sur des citations scripturaires chinoises et qui sont le plus souvent données dans la disputation en lecture sino-japonaise phonétique et pas en lecture explicative. C'est-à-dire que la citation chinoise est là massive et demande à faire l'objet d'une analyse, d'une exégèse en langue japonaise. Il y a une dialectique constante entre les deux langues qui est pour moi tout à fait passionnante. Et cela a bien sûr influencé la réflexion japonaise en général. Cette année, nous avons travaillé, les dernières séances de l'année passée ont été consacrées au Gukansho de Jien, qui est un travail d'historiographie. On parle souvent du premier texte de réflexion historique japonaise, un texte qui date donc des environs de 1219-1223. Et il est manifeste qu'il y a des influences du style des disputations dans les réflexions que Jien inscrit en japonais, donc dans un style très proche parfois du style des disputations, puisque c'est un mélange de langue classique et de langue orale, qui se rapproche aussi de son texte sur le rêve, justement, où il y a cet embryon de dispute avec soi-même. Donc la question langagière est au tout début de ces préoccupations. Et l'une des grandes marques japonaises, originalité japonaise des disputations, et vous comprendrez pourquoi donc cela m'intéresse aussi, c'est l'usage du waka, du poème japonais, de la poésie japonaise. C'est-à-dire que je pense que des trois traditions que j'ai énumérées, la latine européenne, la tibétaine et la japonaise, il n'y a qu'au Japon, et très spécialement dans le Tendai, mais là je pense que des amis et des collègues viendront peut-être m'apporter d'autres exemples dans d'autres écoles, le waka, donc le poème, la poésie exprimée en langue japonaise, le symbole même de la langue japonaise, le waka peut être utilisé comme argument dans la dispute. Et ça, c'est tout à fait ce qui montre la présence. Nous avons déjà suffisamment démontré que le waka est vraiment considéré comme le signe du japonais, de la langue japonaise, à l'encontre de la langue chinoise. Et le waka intervient très fréquemment dans les disputations. Et nous verrons que Claire Brisset, à la fin de cette journée, nous parlera des parodies de disputes où, justement, le waka apparaît comme l'un des traits caractéristiques. Et je vois que le temps passe très vite. Donc nous verrons que les longhi ne sont pas seulement donc limités à la scolastique japonaise, mais que le procédé même le procédé même a été copié, comme dans le Gukansho, parodié, comme nous allons le voir avec Claire Brisset et le professeur Ishii, qui nous donnera aussi quelques indications sur la théâtralité du longhi. Et donc, elle est par-delà le cadre étroit de la scolastique. Elle a une grande influence sur la culture japonaise en général. Quelques détails concrets que je rappellerai peut-être en début d'après-midi ou en fin de matinée. Donc, malheureusement, comme vous l'avez vu, le caractère un peu décousu de la préparation de ce colloque dont je suis entièrement responsable, et s'il réussit, c'est vraiment grâce à la coopération de nos collègues japonais, et à commencer par le professeur Abe qui a organisé les choses, n'est-ce pas ? Mais je voulais vous dire que cet après-midi, le programme sera un peu changé. Nous commencerons à 14h30 avec la communication du professeur Ishii, puis de 15h15 à 15h45, il y aura une pause assez longue parce qu'elle permettra aux participants du colloque, aux communicants, d'aller voir un rouleau japonais qui sera exposé ailleurs. Ensuite, c'est à 16h30, c'est le professeur Matsuo qui prendra la parole. Ensuite, notre ami Jérôme Ducor, puis finalement Claire Brisset. Cela nous permettra de résoudre la quadrature du cercle, parce que nous avons deux personnes qui vont faire l'interprétariat de nos collègues japonais de l'après-midi, mais ils ont des contraintes horaires qui ont fait que nous sommes obligés de changer le programme. Alors, il me reste à remercier deux personnes qui ont accepté de façon tout à fait impromptue de s'occuper de la présidence des deux séances du matin et de l'après-midi. Notre ami Frédéric Girard de l'École française d'Extrême-Orient, donc, pour la matinée, et notre ami Lucia Dolce qui accepte vraiment avec la plus grande gentillesse de faire cette séance de l'après-midi qui va être un peu rock'n'roll, si j'ose dire, et de la SOAS de Londres, dans la School of Oriental and African Studies, grande spécialiste aussi comme Girard l'est de la culture bouddhique japonaise et des philosophies jusqu'à la philosophie moderne. Lucia Dolce, évidemment, s'occupe des religions japonaises médiévales et tout spécialement du Nichiren-shu. Voilà, il me reste maintenant à céder la place. Alors, je voulais, nous commençons sous des auspices tout à fait extraordinaires, n'est-ce pas, puisque notre ami Paul Swanson, qui nous fait l'amitié de venir, vient de me donner la publication. C'est comme un croissant chaud, n'est-ce pas? Et on sent presque encore la chaleur du four. La publication de sa traduction anglaise du Makashikan, n'est-ce pas, qui est vraiment sans doute l'un des textes les plus cités dans les disputations. Et non seulement dans les disputations, mais dans les poèmes bouddhiques japonais. Le Makashikan est vraiment... Si on ne lit pas le Makashikan, on ne peut pas lire la poésie japonaise bouddhique du Moyen-Âge. Et nous avons maintenant la chance de l'avoir en anglais. C'est comme... l'histoire entre Shakyamuni et Maitreya, n'est-ce pas? Nous devions faire tous les deux, l'un la traduction française, l'autre la traduction anglaise. Paul Swanson et Shakyamuni, il est arrivé au terme. Moi, j'en suis encore très loin. Mais en tout cas, voilà, c'est sous le signe du Makashikan swansonien que nous ferons cette journée que je vous souhaite aussi passionnante qu'elle l'est pour moi à l'avance. Voilà, je vais maintenant laisser la présidence à notre ami Frédéric et en priant le professeur Abbé de venir à son tour, puisque c'est Frédéric qui va le présenter et que je remercie encore. Alors, merci infiniment et bonne journée.